des États, mais souligner les spécificités de la Convention sur les disparitions forcées. On a toujours dit que c'était un élément novateur, un traité du XXIe siècle qui tenait compte des échecs ou des défauts des autres comités, et en particulier de la fatigue des rapports. Alors, c'est une fatigue tout à fait relative, parce que quand il s'agit de l'examen périodique universel, il y a une abondance de moyens, de temps, et de travail et de documentation qui est faite. Mais quand il s'agit de rapports devant des experts indépendants, la logique est un petit peu différente. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'article 29 est très clair. On ne parle pas de rapport périodique, de cycle de rapport. Et c'est quelque chose qui est très mal compris lors des réunions des présidents, lorsque certains soutenaient l'idée d'un master calendar, d'un calendrier qui était comme une tablette de chocolat suisse avec les carrés bien rangés et les petites images symétriques. J'expliquais que pour nous, c'est pas possible parce que le déclenchement de la procédure dépend de la ratification par l'État. Donc c'est dans les 2 ans, en anglais within 2 years, qui est plus strict que dans les 2 ans, parce que les États veulent attendre 2 ans et puis après ils commencent à réfléchir. Et donc c'est encore une fois un escalier qui est déclenché par la date de la ratification. Première phase. Et ensuite, l'article 29, paragraphe 4, donne toute la souplesse nécessaire pour avoir un suivi adapté aux situations. Et lors de la confirmation du comité qui a été fait par la réunion des États parties à laquelle l'ambassadeur d'Argentine a fait allusion, 2 États, 2 royaumes, la Belgique et les Pays-Bas, ont souligné l'importance de cette souplesse pour dire que si il n'y avait pas de problème juridique ou de problème pratique de disparition forcée, il ne fallait pas alourdir le travail des États en leur demandant des rapports qui ne rimaient à rien. Autrement dit, cette flexibilité implique aussi une réactivité plus grande lorsqu'il y a des situations préoccupantes. Et ça, c'est une tâche à laquelle le comité doit réagir, réfléchir pour l'avenir. Autrement dit, la Convention, qui est notre boussole, et nous sommes là pour appliquer un traité qui crée des obligations juridiques pour les États et qui crée des devoirs pour le comité. Ce n'est pas un calendrier périodique de 5 ans ou de 8 ans ou de 10 ans, c'est du cas par cas selon la gravité des situations. Et on nous a rappelé tout à l'heure des situations particulièrement importantes. Compte tenu de la limitation des moyens, il faut avoir des priorités claires. Si passait notre temps à examiner la situation en Islande, etc., ou sur la Lune, sans regarder ce qui se passe devant nos yeux, nous serions gravement défaillants. Et donc, je crois qu'il faut que tout le monde, le Haut-Commissariat, les représentants des États amis de la Convention, les ONG, soient conscients de cet impératif. Mais je crois que les membres du comité, en tout cas, nous sommes tout à fait conscients de cette nécessité. Et il ne faut pas qu'il y ait une démobilisation, parce que le fait que la stratégie de ratification soit encore dans les limbes implique aussi que les États ne se bousculent pas non plus beaucoup pour remettre leurs rapports, sachant qu'il n'y a aucune pénalité, entre guillemets, pour les rapports qui sont en retard ou même qui sont overdue. Si on regarde la liste des premiers États qui ont ratifié, vous avez des États importants comme le Brésil, le Mali, le Nigeria, dont nous attendons le rapport depuis maintenant, pas 10 ans, mais presque. Donc là, est-ce qu'on reste les bras croisés ou est-ce qu'on trouve des moyens pour un examen in absentia ou d'autres formules avec la coopération de la société civile? Merci.
Merci Emmanuel et Mouansef Bati, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.